l'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Bonjour. Et voilà, bienvenue dans Vacarme en Réunion, ça vous fait dire qu'il est 16h.
Tout à fait, c'est la bonne heure, c'est 16h aujourd'hui, dimanche 29 octobre. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission, bienvenue Martin.
Bonjour.
Bonjour, et bienvenue Elodie pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui sur le processus d'indépendance de la Catalogne, en tout cas tout le bordel qui se trame en Catalogne depuis quelques mois quoi, finalement.
Ouais, il y a pas mal de médias qui en parlent un peu partout, mais pas toujours de façon très satisfaisante. En tout cas, quand on cherche un peu la complexité de la situation, on trouve pas grand-chose. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose de satisfaisant. Et toi, Martin, mercredi dernier, aux Tanneries, t'as proposé un moment de compréhension, justement, de ce qui se passait là-bas. Et moi j'y étais et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et du coup je trouvais ça bien, on trouvait tous ça bien, de refaire un moment ici à la radio pour réfléchir ensemble à ce qui se passe là-bas avec quelqu'un qu'on sait un peu plus quoi. Parce que toi tu as vécu pendant un temps en Catalogne et maintenant tu y passes encore pas mal de temps, c'est ça ?
Ouais, j'ai vécu 12 ans.
Ouais voilà, t'as vécu 12 ans en Catalogne et du coup voilà, j'ai l'impression que c'était ça qui manquait, c'est aussi un point de vue un peu quotidien et de comprendre un peu c'est quoi les ambiances en Catalogne, c'est quoi la complexité des situations et pas seulement d'un point de vue très large et très géopolitique mais aussi de comprendre c'est quoi qui se passe pour les gens qui sont en lutte aujourd'hui en Catalogne, enfin etc quoi, toutes ces dimensions là. Pour résumer rapidement, j'ai l'impression que l'image que nous donnent les médias, ce qu'on peut lire sur Le Monde, ce que raconte Libération, ce qu'on entend aussi à la radio ces derniers jours, ça donne la sensation assez massivement que la Catalogne, c'est essentiellement une région riche qui a envie d'arrêter de payer des impôts pour le reste de l'Espagne plus pauvre et qui a envie d'une indépendance économique, de savoir voilà, de pouvoir récupérer ces impôts-là, en faire ce qu'ils leur souhaitent, ce qu'ils veulent. Et par exemple, voilà, tout à l'heure, moi, je regardais encore des vidéos sur YouTube avec des femmes qui disaient « on en a marre de payer pour le reste de l'Espagne », etc., des choses comme ça. Et ça s'accompagne aussi d'une image, d'une sorte de repli identitaire. Il y a beaucoup de personnages un peu politiques, de défendeurs aussi de l'Union européenne qui mettent un peu ça en avant, genre voilà, toujours plus de frontières, toujours plus de repli identitaire, etc. Et j'ai l'impression que c'est globalement le tableau qui nous est dressé, avec en plus la sensation un peu mise en avant que les indépendantistes en Catalogne sont minoritaires, ou en tout cas sont en train de créer un espèce de coup de force, là, en proclamant l'indépendance, avec ces tribunes, quand même, dans Libé, dans Le Monde, hier, qui déclarent, suite à la déclaration des élections, enfin, à la tenue de futures élections, Catalogne, place à la démocratie, quoi. Ça y est, enfin, il va y avoir une vraie démocratie avec la tenue de
qui est celle constitutionnelle de l'État espagnol, quoi. Enfin, décidée par l'État espagnol.
Ouais, voilà.
Enfin, qui serait celle constitutionnelle.
Ouais. Du coup, ce que toi, tu nous as raconté aux Tanneries il y a 3 jours, ça n'a rien à voir avec tout ça.
C'est moi qu'on visite bien.
Ouais, voilà. Et voilà, et du coup, je pense que c'est bien de revenir un peu d'abord sur qu'est-ce qui fonde cet élan indépendantiste en Catalogne, même s'il est certainement très complexe et très multiple, quoi. Mais si toi, tu peux nous raconter déjà un peu ton point de vue là-dessus.
Bah déjà commencer par dire que je vais pas donner complètement tort à cette version officielle, hein, parce que je pense que c'est une partie de la réalité, mais que c'est une partie qui est volontairement ou pas très axée, quoi, vraiment qui masque aussi toute une réalité bien plus complexe de ce qui se passe dans la rue. Donc dans les médias, on va toujours entendre parler des négociations entre les différents partis, et plutôt avoir la vision de l'indépendantisme de droite, Mais il faut savoir que l'indépendantisme de droite est une des tendances de l'indépendantisme, et plutôt une tendance minoritaire au sein de l'indépendantisme, qu'au final, il y a plutôt beaucoup de gens vivent le processus indépendantiste comme un processus d'émancipation collective vis-à-vis de l'État espagnol, et pas comme un repli sur soi, comme on l'entend malheureusement trop souvent.
Donc cet indépendantiste de droite, c'est celui qui porterait l'idée de la nation, l'idée d'une nation catalane un peu forte, et puis ce que j'ai dit un peu tout à l'heure...
De la non-redistribution des richesses, en tout cas, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment... En fait, l'indépendantisme de droite est surtout... c'est un indépendantisme bourgeois, donc effectivement, avec vraiment la volonté de ne pas partager les richesses qui sont produites en Catalogne avec le reste de l'Espagne. Mais cet indépendantisme-là, il est très récent. En fait, ces gens-là, ils ont toujours existé. Avant, c'était des nationalistes. Et ça fait 30 ans qu'ils sont très actifs et très puissants en Catalogne. Mais ça fait que 6 ans qu'ils sont devenus indépendantistes. Le mouvement indépendantiste est bien plus vieux et a toujours été très ancré à gauche. Donc pas du tout dans une perspective de repli sur soi, mais plutôt dans une politique, c'est ça, de penser. Nous, on veut s'émanciper de la monarchie espagnole, mais en étant solidaire des autres peuples espagnols qui vont aussi s'émanciper de la monarchie espagnole, quoi. C'est pas chacun pour soi, quoi. C'est pas du tout la logique, quoi. C'est plus d'essayer de penser la monarchie espagnole est tellement sclérosée, a tellement fixé des bases sociales qui nous conviennent pas, qu'on va, en explosant ça, on peut ouvrir des perspectives pour un changement radical.
Il y a eu effectivement tout un tas de propositions par le gouvernement catalan, donc peut-être on y reviendra après, mais qui sont plutôt progressistes, qui sont assez folles, là, qui ont été proposées et qui vont complètement à l'inverse de ce que l'État propose, enfin en tout cas qui ont essayé de changer tout un tas de choses en termes de redistribution des richesses, de non-coupure de l'électricité, de l'eau, etc. Il y a eu tout un tas de trucs, qui peut nous parler un peu de ça là.
Eh ben oui, par exemple, un exemple de ça, c'est que ce parlement catalan, donc indépendantiste, majoritairement indépendantiste depuis maintenant 4 ans, 5 ans, parmi les nombreuses lois qu'il a passées, la majorité ont été annulées par le tribunal constitutionnel espagnol. Et parmi ces lois qui ont été votées à une ultra large majorité, il y avait la fermeture des centres de rétention, la redistribution des richesses à travers notamment une sorte de RSA catalan, l'impossibilité pour les entreprises qui distribuent l'énergie de couper les fluides aux familles qui sont en situation de surendettement.
Ne pas laisser aux banques l'immobilier qui n'était pas
voilà,
qui était
vacant, une possibilité pour l'État de saisir les logements vides aux banques, l'interdiction de la tauromachie, vous voyez, tout un tas de choses qui sont quand même plutôt d'un point de vue progressiste et de gauche, et qu'on pourrait imaginer que la gauche internationale se sente proche de ces valeurs-là, et finalement ils restent bloqués sur l'espèce de narration qui voudrait que l'indépendantisme catalan c'est juste rajouter des frontières à l'intérieur d'un État. Alors qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça, quoi.
Ouais, parce que toi, tu disais l'autre jour, par exemple, que ce truc de rajouter des frontières, effectivement, ça fait passer les Catalans pour des gens qui seraient plutôt contre l'immigration, enfin, de tout ce truc-là. Et toi, tu disais, par exemple, que y avait des gens qui avaient été arrêtés il n'y a pas longtemps et qui avaient été aussi en tête de mouvements qui disaient « Nous, on veut accueillir plus de réfugiés en Catalogne », etc.
Mais c'est ça, la Catalogne, c'est peut-être le seul territoire dans toute l'Europe où les gens se mobilisent massivement pour accueillir des réfugiés.
Ils sont descendus dans la rue pour ça.
Il y avait 150 000 personnes à Barcelone il y a 6 mois de ça pour réclamer le fait que l'État espagnol laisse les réfugiés rentrer en Catalogne. Et parce que c'est un peuple méditerranéen, la Catalogne, donc c'est pas tout le monde qui pense ça, mais beaucoup de gens catalans sont scandalisés de voir leur mer Méditerranée se transformer en cimetière à cause des politiques migratoires de l'Union européenne. Et notamment de l'Espagne. L'Espagne s'est engagée à accueillir, je ne sais plus exactement le nombre, mais des milliers de réfugiés. On a accueilli à peine une centaine. Et les Catalans sont... une partie de la société catalane est scandalisée du traitement qui est fait aux réfugiés. Ouais. Et c'est, comme par hasard, la même partie de la population qui est indépendantiste. Donc c'est un peu étrange de dépeindre les indépendantistes comme étant repliés sur eux-mêmes et comme étant des gens qui souhaitent seulement plus de frontières. Sachant que même les indépendantistes de droite ne veulent pas plus de frontières, puisque les indépendantistes de droite veulent être intégrés à Schengen, à l'Union européenne. Donc au final, ça ne rajouterait pas de frontières. Enfin, c'est pas ça la question, quoi.
Qu'est-ce qui s'en est où, alors ? Est-ce que tu peux nous faire un rapide repositionnement un peu chronologique de cette histoire-là de l'indépendantisme tel qu'on l'entend depuis un mois ou deux, enfin un peu plus, mais... là, depuis
Ouais,
la
c'est
France.
compliqué pour moi de savoir comment où mettre le curseur, de où commencer, parce que l'autre jour j'ai fait une longue prépa quand j'ai fait cette présentation de Cotalerie, j'ai fait une longue présentation historique de la tension latente entre la Catalogne et l'Espagne, et c'est je vais pas refaire ça ici, mais c'est un peu 1000 ans d'histoire d'une tension entre deux territoires et deux formes de vivre collectivement qui s'est jamais vraiment éteinte, quoi. C'est-à-dire que depuis 1714, qui est donc le 11 septembre 1714, l'armée espagnole et l'armée française s'unissent pour envahir la Catalogne. Et donc depuis cette défaite-là, qui est un peu la défaite qui quelque part constitue dans l'imaginaire collectif, c'est dingue parce que la Catalogne est presque constituée apparaît presque comme sujet politique avec une défaite, quoi. Et
De par l'envahissement des troupes étrangères, quoi, c'est ça,
en
ouais.
fait, c'est un peu la défaite constitutionnelle de la nation catalane, quoi. Alors qu'il y a une longue histoire avant ça, hein, mais c'est un peuple qui se vit comme étant opprimé à travers cette défaite-là. Enfin, cette défaite-là veut dire beaucoup pour les gens, hein, puisque ça a été un massacre terrible, ça a été des conséquences sociales et économiques terribles pour la population à ce moment-là.
Et tu dis que c'est devenu le jour national, ça?
Ouais, c'est la fête nationale maintenant, ouais. Donc, et c'est la fête nationale, ça nous ramène un peu à une histoire plus récente. C'est une fête nationale qui est utilisée depuis 2010-2011, tous les ans pour faire une grosse démonstration de force de la part des indépendantistes. Quand je dis grosse démonstration de force, c'est grosse démonstration de force, hein, c'est pas une blague, quoi. C'est
plusieurs centaines de milliers, c'est ça, de personnes ou...
En 2012, 1 million de personnes à Barcelone, en 2013, 1,5 million de personnes, une manif qui fait 400 km de long, qui traverse tout le pays. En France, on a du mal à s'imaginer que 15 millions de personnes sortent dans les rues. C'est à peu près
Ce que ça représente
la
proportionnellement.
proportion, quoi, ouais. Si 15 millions de personnes étaient sorties dans les rues contre la loi travail, j'ai du mal à imaginer qu'ils auraient pu la laisser passer, quoi. Vous voyez, même au moment de mai 68, on n'a pas eu des mobilisations aussi importantes en France. Donc c'est pas un phénomène marginal, minoritaire, comme il est parfois dépeint. C'est pas non plus majoritaire, enfin c'est pas non plus un consensus social de la société fracturée. Mais en tout cas, c'est une énorme masse critique qui prend position dans ce cadre-là, quoi. Et qui prend position pour l'indépendance, mais en fait, paradoxalement, comme ça arrive suite à la crise et suite à des mouvements sociaux plutôt des mouvements sociaux liés à des mouvements d'émancipation sociale, quoi. On pourrait dire de gauche. Et ben, c'est aussi pour beaucoup de gens, en fait, à un moment, en fait, il n'y a rien à faire avec l'État espagnol. Ce sentiment que la situation est sclérosée et bloquée. Et donc, qu'à travers l'indépendance, on ouvre un nouvel espace politique dans lequel penser le vivre ensemble et penser à des politiques d'émancipation collective.
Parce que le statut d'autonomie de la région Catalogne, il est discuté depuis hyper longtemps avec l'État espagnol. Et en 2006, il y a une sorte de rejet constitutionnel de par l'État espagnol de ce processus, enfin, d'autonomisation de la Catalogne, c'est ça?
Ouais, il y a eu un accord qui a été fait en 78, donc c'est la Constitution espagnole, qui à l'époque a été très très largement soutenu, mais d'une part c'était en 78, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 20% des Catalans qui aujourd'hui peuvent voter, qui l'ont voté. Donc c'est quand même très relatif pour que les gens le fassent, cette constitution, sentent que c'est leur constitution. Et puis d'autre part, ça a été voté en 78, donc juste après la mort de Franco et juste après 40 ans de dictature. Donc les gens, c'est pas qu'ils étaient prêts à voter n'importe quoi, mais disons qu'il y avait quand même un truc de la peur du coup d'état militaire, la peur de la répression, qui disait tout sera mieux que ce qu'on a eu ces 40 dernières années. Donc les gens, ils ont pas forcément, enfin en tout cas la Catalogne dans ce rapport de force qui s'est constitué à ce moment-là a pas été aussi loin qu'elle irait aujourd'hui, quoi, dans ses volontés d'autonomie. Ouais.
Il y a un truc que t'as pas dit encore, mais je pense à ça, c'est que pour toi, il y a un héritage direct entre le gouvernement espagnol aujourd'hui et le franquisme.
Ah bah très clairement, le gouvernement d'aujourd'hui, donc c'est le Parti Populaire, avant de s'appeler le Parti Populaire, il s'appelait Alianza Popular, c'était un parti qui a été créé par le ministre de la Propagande de Franco, Fraga. C'est le seul parti en Europe, par exemple, qui, quand l'Union européenne, quand au Parlement européen, on demande de condamner les dérives de la dictature franquiste, eux, ils s'abstiennent, ils votent contre. Enfin, ils votent pas pour condamner ce qu'a fait Franco. C'est aussi un parti qui est très à droite d'un point de vue moral, quoi, qui est homophobe, sexiste, qui est très lié à l'Église réactionnaire espagnole. Et donc ça, c'est une partie donc ce gouvernement. Mais il faut voir que ce gouvernement aussi, il y a une séparation des pouvoirs assez terrible en Espagne. C'est eux qui nomment aussi les juges. Donc tous les juges du tribunal constitutionnel, sont également sont placés par le PP, donc ont également pour beaucoup d'entre eux une longue tradition franquiste. Donc c'est à la fois le gouvernement, donc le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, et c'est aussi le pouvoir exécutif de la police et de l'armée qui sont complètes. Enfin, l'armée espagnole a des. Enfin, de toute façon, la Guardia Civil, c'est une organisation fasciste, quoi. Donc ces gens-là, c'est difficile d'imaginer un dialogue possible avec des gens qui ont une telle idéologie, quoi.
Et ça occupe une place importante aussi dans le processus d'indépendance, enfin, ou dans la volonté d'indépendance, parce qu'aussi elle se crée, c'est ce que tu disais au début, contre cet État espagnol, quoi. C'est que plus. C'est qu'il y a l'affirmation peut-être éthique de ce que ça pourrait être, que ce que viendrait symboliser l'indépendance catalane, elle vient aussi. Elle se crée contre ça, quoi.
Elle se crée contre ça et elle est renforcée par ça, quoi. Je veux dire, ce qui s'est passé le 1er octobre, là, quand les gens ont essayé d'aller voter et que la police a frappé des centaines de gens, ça a été un exemple de la réaction espagnole, du côté profondément réactionnaire du régime espagnol. Et ça a suscité énormément de velléité indépendantiste. Enfin, ce qu'on dit, c'est que ce qui se dit souvent là-bas, c'est que Mariano Rajoy, c'est le premier responsable du fait de l'apogée des indépendantistes, enfin de la montée des indépendantismes, parce qu'il est tellement méprisant, tellement autoritaire, que face à ça, même des gens qui il y a 5 ans, ça leur était égal cette question-là. En fait, ils ont juste envie de se barrer de ce pays. Parce que ça, c'est gerbant ce qu'ils disent. Vous voyez, un exemple de ça, c'est que le porte-parole du Parti Populaire, il y a une semaine de ça, quand c'était encore en question s'ils allaient ou pas déclarer l'indépendance, le porte-parole d'un parti démocrate démocrate en théorie, disait faut que le Puigdemont, donc le président catalan, se méfie, parce que s'il continue sur la voie qu'il a choisie, il pourrait finir comme Luis Companys. Luis Companys, c'était un président en Catalogne dans les années 30, au moment de la guerre d'Espagne, et donc qui s'est exilé en France, qui a été arrêté par la Gestapo et transmis par le régime nazi à Franco, qui a été torturé dans les geôles franquistes et fusillé finalement sans procès.
Je crois qu'il a été transmis en Espagne par Vichy plutôt.
Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, c'est la Gestapo qui l'a arrêté en Bretagne. Ouais. Et qu'un porte-parole d'un parti politique européen menace de torture et menace, c'est sous couvert parce que c'est un peu évoqué ça, mais ça laisse imaginer comme les gens peuvent se sentir alors que c'est, on peut en penser ce qu'on en veut, ça reste la liste la plus votée, c'est le parti. Est-ce que si le président de la Commission européenne menaçait de fusiller Macron en France parce que sa politique ne respecte pas les limites qu'a placées l'Union européenne. Je sais pas, je pense qu'un paquet de gens en France se sentirait agressé par une prise d'opposition comme ça, qu'on aime ou pas Macron. La vie, c'est un peu de bon dia pour ta, mientras el sol esperava. I els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant.
que cop la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si has tirat ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant de sisè, lo darrer que em va ensenyar. Si has tirat tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort,
voilà, c'était l'Estaca. On est toujours dans Vacarme en Réunion avec toi, Martin. Tu veux nous raconter un peu ce que dit cette chanson ?
Eh ben ouais. Alors déjà vous dire cette chanson, bon, j'imagine pour beaucoup de gens, ils l'avaient déjà entendue. C'est un peu la chanson la plus connue en catalan hors de Catalogne. Et c'est une chanson hyper populaire. C'est-à-dire que dans les manifs, elle est chantée en permanence. Mais quand je dis dans les manifs, c'est dans les manifs indépendantistes. Et c'était aussi le cas. Moi, quand j'étais dans les squats, quand on était en train de se faire expulser par la police, on chantait les Staka. Vraiment, énormément de gens. Enfin, ça appelle un imaginaire pour énormément de gens. Un imaginaire populaire et radical à la fois, quoi. Et donc, ce que dit la chanson, c'est un jeune garçon qui parle à son grand-père. C'est tout un tas de métaphores. Son grand-père, ça serait un peu la génération qui a perdu la guerre civile. Lui, ce jeune garçon, c'est un jeune antifranquiste dans les années 70. Et qui dit à son grand-père, vas-y, on est tous les deux accrochés à un poteau, comme des chèvres, comme dans la chèvre de Monsieur Seguin, un peu, quoi. Et si on tire, toi tu tires dans un sens et moi je tire dans l'autre, en s'y mettant ensemble, on va réussir à faire craquer le poteau qui est complètement mangé par les termites. Vous voyez, en fait, c'est une chanson qui est sortie à l'époque du franquisme, donc qui n'avait pas du tout la possibilité d'expliciter les choses. C'est que des métaphores, il n'y a absolument rien de très clairement politique dans cette chanson, c'est une espèce de poésie autour de la libération collective. Et c'est assez beau parce qu'à un moment, le grand-père dit « Moi, je suis fatigué, j'ai déjà beaucoup lutté, beaucoup souffert. » Et donc le jeune lui redit « Attends, on va rechanter le refrain ensemble, ça va nous donner de la force pour continuer à nous battre et réussir à faire tomber ce poteau.
Voilà. »
Et Louisiac, ouais, Louisiac, c'est donc une sorte de Georges Brassens catalan, hein, c'est un peu l'équivalent au niveau du... C'est un peu le grand-père de tous les Catalans, quoi. Il a vraiment une aura énorme et depuis 2 ans, il est député dans la liste unitaire indépendantiste. C'est aussi, ça fait partie de ces figures de l'antifranquisme, de la fin du fascisme, qui ont du coup assez, comme une espèce d'évidence pour eux, embrassé la cause indépendantiste au fur et à mesure des années, quoi. Quand on parlait de cette histoire, alors là on en a peu parlé, je l'avais beaucoup insisté là-dessus l'autre jour, c'est qu'une grande partie de la culture catalane s'est construite du fait d'être un territoire qui se vit comme étant un territoire occupé, a été en grande partie construite en marge de l'État. Donc je vais vous lire ce qu'a écrit un camarade de Barcelone il y a quelques années pour parler de ça. Historiquement et à cause précisément de l'absence d'un État en soi, nous autres Catalans avons construit notre organisation sociale, politique, économique et culturelle d'une manière non étatique. Depuis les sociétés ouvrières de résistance de 1855 jusqu'à l'économie populaire, coopérative et mutualiste de 1870 à 1939, depuis les Athénées, ces centres sociaux, culturels, ouvriers à tendance libertaire qu'il y avait à l'époque, ces syndicats, ces écoles libres, ces casals, les centres de jeunesse, ces entités culturelles et théâtrales, ces chorales, jusqu'aux institutions scientifiques, littéraires, éducatives, tout au long de notre histoire contemporaine et jusqu'à la défaite de 1939, la Catalogne moderne et émancipatrice a su articuler une solidarité sociale avec l'organisation collective. Et c'est un fait, sans et contre l'État. C'est-à-dire qu'on parle d'une époque où l'État, il n'y a pas de sécurité sociale. La sécurité sociale, ce sont des mutuelles ouvrières qui s'auto-organisent pour constituer une sécurité sociale, mais en marge de l'État. En marge, et souvent, comme il le dit, contre l'État. Donc ce mouvement, je reprends le texte, quasiment exterminé après la défaite de 1939, ce sujet constituant a pu renaître et reprendre la construction d'un pays en soi au beau milieu de la dictature franquiste. Une nouvelle fois, sans État et contre l'État. Coopératives de logement, écoles laïques et mixtes, maisons d'édition, universités populaires, formations professionnelles, journaux et revues, scoutisme. Alors là, je fais un aparté, c'est que vraiment le scoutisme là-bas est plutôt lié aux valeurs libertaires qu'aux valeurs religieuses. Excursionnisme, pareil, le mouvement de tous les clubs de randonnée sont plutôt liés à une sensibilité libertaire. Syndicats, assemblées ouvrières, organisations féministes, associations de voisins. Cette démocratie catalane réelle a été malheureusement phagocytée par les partis politiques espagnols et catalans durant la période de la transition démocratique, après la mort de Franco. Donc c'est une époque, c'est évident de penser ça, donc pour le 19e siècle, pour l'époque de la dictature, que le peuple catalan s'est organisé en marge de l'État. Mais paradoxalement, ces dernières années, avec le rejet qu'on a vu là avant du tribunal constitutionnel de toutes les lois qui étaient proposées par l'embryon d'État qui est l'autonomie catalane, ça fait que de fait, si on veut que les choses se fassent, il faut les faire soi-même, quoi. Il ne faut pas attendre que l'État le fasse, parce que l'État espagnol, il fait rien en Catalogne. Et l'État catalan, quand il voudrait faire quelque chose, de toute façon, il ne peut pas le faire, puisqu'il en est interdit par l'État espagnol. Donc ça fait qu'énormément de ces initiatives, il y a un énorme secteur de l'économie qui fonctionne en coopérative, par exemple. Il y a un réseau féministe très puissant. Tous ces mouvements-là, quand ils se coordonnent et qu'ils essaient de construire ensemble, donc c'est ce dont il parle, lui, d'un processus constituant, pas un processus constituant au sens d'une formalité qu'on signerait, d'un texte qui serait, mais plutôt un processus constituant, comment un peuple se constitue lui-même. C'est ce dont on parlait avant, d'un peuple en devenir qui se constitue en construisant les structures qui répondent à ses besoins basiques, quoi.
Ouais, qui se constitue, mais quotidiennement, quoi. Pas dans un truc de constituer un État ou je sais pas quoi.
Ouais, qui est en processus. Un peuple qui est en processus, donc un peuple en lutte. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressent ces derniers temps avec ce qui est arrivé autour du 1er octobre, d'avoir le sentiment que pour toute une partie des gens, il y a une brèche, c'est ouverte. Ok, l'État maintenant, l'État espagnol, c'est notre adversaire. On va pas pouvoir rentrer dans un choc frontal avec lui. Il faut qu'on arrive à vider de son pouvoir de sens. C'est-à-dire comment faire pour que les lois qu'il essaie de nous interdire, on essaye de les appliquer en marge de la loi.
Ouais. Et c'est donc des processus d'autonomisation finalement qui sont à l'œuvre depuis tout un tas de temps. Tu dis depuis sous Franco, il y avait déjà, donc c'est ce que dit le texte, c'est ça.
Sous Franco et même sous. En fait, il y a eu une succession de dictatures en Espagne. Hein, il y a eu Primo de Rivera au début du siècle. Enfin, il y a une succession de dictatures avant qui mettait déjà en porte-à-faux la Catalogne et l'Espagne. C'est ce que je disais aussi l'autre jour. Au milieu du 19e siècle. Un général espagnol disait il faut bombarder Barcelone tous les 50 ans. Pour le bien de l'Espagne, il faut qu'on bombarde Barcelone tous les 50 ans. Et c'est vraiment symptomatique de quelque chose autour de cet esprit rebelle qu'il peut y avoir en Catalogne. Ce qui est très connu ici en France, c'est l'histoire ouvrière, notamment anarchiste, qu'il y a pu y avoir sur Barcelone même. Mais en fait, il y a aussi un énorme mouvement paysan. Et une partie de la résistance qui est aussi rurale, qui est beaucoup moins connue évidemment, puisque souvent ce qui se passe dans les campagnes, on en parle moins. Mais c'est aussi très présent.
Mmh.
Peut-être qu'on résume la séquence qui vient un peu de se passer là, ce dernier mois par exemple. Je ne sais pas si tu es capable de faire ça.
On peut remonter un peu juste en disant que le 27 octobre, donc c'était vendredi, il y a eu le processus, enfin en tout cas l'annonce de l'indépendance de la Catalogne qui a été faite par, comment tu dis,
Puigdemont.
Et dans la foulée, El Rajoy, donc, qui est le Premier ministre, enfin en tout cas...
Le chef du gouvernement espagnol,
voilà, qui a donc dit que voilà, il allait mettre en branle l'article 155 de la Constitution qui suspend de facto le statut d'autonomie de la région et met ses principales institutions sous la tutelle du pouvoir de l'État. Voilà, donc ça c'est peut-être ce qu'on peut dire dans la dernière... Enfin, c'est le dernier moment, enfin en tout cas de la séquence qui
c'est la séquence dans laquelle on se trouve maintenant.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Sachant que tout va très vite et toutes les deux heures, il y a des... C'est en plus assez fou ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue de ce que ça signifie aussi de notre époque. Vous voyez, le truc des réseaux sociaux, des commentaires et des échanges à travers Twitter qui sont complètement délirants, quoi. C'est en permanence des interventions qui viennent changer les rapports de force, changer les alliances. C'est assez délirant et même assez chronophage, hein, parce que ça veut dire que si tu t'intéresses à ce processus et tu veux essayer de comprendre, en fait, il faudrait aller voir 5 fois par jour les journaux et regarder les comptes Twitter de je sais pas combien de personnes. C'est un peu délirant. En vrai, ça sera de toute façon une vision partielle, celle qu'on va essayer d'avoir ici, quoi.
Donc comment on en est arrivé à là, à ce qu'il y ait l'indépendance proclamée par Puigdemont et à la fois la mise sous tutelle de l'État? C'est quoi qui s'est passé?
On arrive un peu au bout de deux logiques qui s'opposent complètement et que Rajoy est resté bloqué sur sa position qui est celle de toujours, celle du PP depuis toujours, c'est de dire il n'y a rien à discuter avec les Catalans. Et Puigdemont a plutôt essayé de laisser une porte ouverte au dialogue en permanence. Mais à partir du moment où ils se sont eux-mêmes lancés dans une politique de rupture en souhaitant l'indépendance, c'est aussi délicat pour eux de donner beaucoup de légitimité à Madrid concernant les décisions qui sont prises à Barcelone, quoi. Donc là, c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est-à-dire que le gouvernement espagnol a destitué Puigdemont de la présidence de la Generalitat, donc ce qui était l'autonomie catalane. Ce à quoi le président catalan dit « De toute façon, il n'y a plus de généralité, il n'y a plus d'autonomie. Maintenant, je suis président de la République. Enfin, maintenant, il y a une République catalane. Catalogne, donc, en fait, je ne reconnais pas votre légalité. Et inversement, l'Espagne ne reconnaît pas la légalité de la Catalogne. Et inversement, la Catalogne ne reconnaît pas la légalité de l'Espagne. »
Donc, le 1er octobre, si on fait vite, le 1er octobre dernier, il y a eu un vote, un référendum appelant... à se prononcer pour ou contre l'indépendance de la Catalogne.
Ouais, alors en vrai, on pourrait passer une heure à parler seulement de ce jour-là parce que c'est une journée vraiment, je pense, qui sera une journée charnière dans l'histoire du pays parce que je pense que ce jour-là, énormément de gens ont décidé de plus jamais rien avoir avec l'Espagne. Vu la violence de la réaction de Madrid.
Parce qu'à ce moment-là, donc, il y a eu, avant ça, tout un tas de perquisitions, de processus et de procédures judiciaires pour empêcher le déroulement du scrutin, etc., le référendum. Et puis, ce jour-là même, il y a eu des affrontements, tu dis, de policiers de Madrid, parce que les Mossos de Escuadra, qui est les policiers autonomes de la région, c'est trop bizarre de dire ça,
les policiers catalans,
voilà, plutôt du pays. Ouais. Eux n'ont pas vraiment joué leur jeu, c'est-à-dire n'ont pas vraiment empêché ce scrutin alors que Madrid leur avait demandé. Donc il y a les policiers espagnols qui sont venus.
Voilà, Madrid avait envoyé, à partir de mi-septembre, Madrid a envoyé 10 000 policiers. Ils sentaient bien, Madrid, qu'ils n'allaient pas avoir ils n'avaient pas confiance dans la police catalane. Ils avaient raison. Et donc ils ont envoyé 10 000 policiers, donc d'une part pour le 1er octobre, mais en amont, en fait, ils espéraient réussir avec des perquisitions, des enquêtes, à faire empêcher l'organisation matérielle du référendum. Ce qui semblait, même pour nous, la population, quand on en parlait les jours d'avant, on se disait, mais de toute façon, comment ils vont faire? Enfin, comment on fait pour organiser un référendum clandestinement? Il y a 2200 bureaux de vote qui devaient être constitués avec des urnes, des tables électorales, vous voyez, le bureau électoral.
Ouais.
Et Et on avait du mal à imaginer comment ils allaient réussir à faire ça. On a été tous bluffés, parce qu'en vrai, il y a une organisation dingue qui s'est mise en place. Les gens ont réussi à faire passer les urnes clandestinement. Les urnes étaient en France, enfin en Catalogne française. Elles ont passé la frontière exactement comme les réseaux antifranquistes faisaient passer la frontière à leur matériel à la fin des années 60, enfin, au cours des années 70. Il y a eu une histoire un peu similaire, sauf que cette fois-ci, c'est pour voter. Et
le scrutin s'est déroulé.
En fait, le 21 septembre, ils ont tenté une énorme perquisition sur le ministère de l'économie en Catalogne. Et je pense que ça les a aussi un peu... ils ont commencé à se dire, oh là, on a un problème. Parce que quand la police est rentrée dans le ministère pour faire des perquisitions, pour essayer de trouver où était comment ils finançaient en gros le référendum, ils se sont retrouvés encerclés par 50 000 personnes. Et ils ont été bloqués pendant presque 24 heures à l'intérieur du ministère de l'économie sans pouvoir sortir. Puisque la masse les empêchait d'emporter tout le matériel qu'ils essayaient de perquisitionner.
C'est notamment pour... Bon, c'est un détail, mais c'est pour ça que les deux Jordi se sont fait emprisonner, non ?
Exactement.
Ok. Jordi, qui sont les deux présidents, un de l'ANC, et l'autre de l'Omnium, je ne sais pas quoi. Ouais.
Qui sont des organisations... ANC, c'est la grosse organisation indépendantiste historique. C'est une organisation qui existe depuis les années 70, qui était déjà... Il y a déjà des gens de l'ANC qui ont fait de la prison sous Franco. Mais Omnium Cultural, c'est vraiment une organisation culturelle qui défend la langue catalane avant tout. Et eux, par exemple, ils sont jamais personne ne s'était fait arrêter, même sous Franco. Quoi. Ils avaient une existence, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des perquisitions dans leur siège, sous Franco. Mais même, enfin, je veux dire, on en est arrivé à un stade que être militant d'Omnium, se faire arrêter parce qu'on est militant d'Omnium aujourd'hui, c'était un truc qui n'existait pas dans les années 70. Quoi.
Donc ce scrutin a eu lieu, il y a 2 300 000 personnes qui ont voté, un truc comme ça.
Ouais. Il y a 2 millions... 500 000 personnes qui ont voté, 2 200 000 pour et
ouais,
300 000 contre.
Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est les chiffres des pour. Ok. Et là, il y a une.
C'est aussi un truc intéressant. Hein, je veux dire, j'en ai peu parlé l'autre jour, mais il faut imaginer. Donc, il y a 1 000 personnes qui ont été blessées au cours des agressions policières. Il faut imaginer que si 10% des gens ont voté contre, ça veut dire que 10% des personnes qui ont été blessées par la police espagnole ont été blessées en allant voter non à l'indépendance. Vous imaginez le côté complètement délirant du truc, quoi. Et d'ailleurs, enfin, plusieurs personnes le disaient, je me suis trompé, en fait, j'aurais dû voter pour l'indépendance, quoi. Pour revenir et finir sur cette histoire de référendum, c'est que quand même, le Madrid dit, ce référendum n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de référendum. Et de fait, la semaine dernière encore sur la BBC, le ministère de l'Intérieur espagnol dit, les images des violences policières, c'est des fake news. C'est les indépendantistes qui ont inventé ça.
Ouais.
C'est pour vous donner le Je pense que c'est assez dur de saisir l'espèce de réalité parallèle de ce qui est en train de se vivre entre si on le vit à Barcelone et qu'on parle catalan et si on le vit en Espagne et qu'on parle espagnol. En fait, les mêmes, quasiment, pendant ces dernières années, c'est un truc qui m'a souvent choqué, si on lit le même journal, El Periódico, par exemple, un des plus grands journaux qui est en Catalogne, et publié à la fois en espagnol et en catalan, c'est pas les mêmes informations qu'il y a à l'intérieur en fonction de la langue qu'il écrit, quoi. Donc ça fait vraiment un truc de se dire, bah ouais, évidemment, si les réalités sont différentes, les manières de les raconter, bah ça fait que au fur et à mesure, les gens ont de plus en plus de mal à se comprendre, en fait, quoi. La brèche, elle s'approfondit encore plus, quoi.
Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique ?
Ça, c'est une chanson qui s'appelle Que volen aquesta gent que truquen de matinada. C'est une chanson, encore une fois, des années 70. Ça raconte l'histoire d'un jeune étudiant antifranquiste. Et c'est la vue de sa mère qui dit comme ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens qui viennent en pleine nuit chez moi pour arrêter mon fils ? Et c'est l'histoire d'un adolescent qui s'est jeté par la fenêtre pour échapper à la police et qui est mort pendant une intervention policière. C'est donc encore une fois l'imaginaire antifranquiste, etc. Cette chanteuse-là, le jour où les deux Jordi de ces associations culturelles se sont fait arrêter, elle était en tête de la manifestation, elle a chanté sur la scène cette chanson qui a été reprise par toute la foule. Donc c'est encore une fois cet aller-retour entre l'histoire des années 70 et l'histoire actuelle.
De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent? Que truquen de matinada el seu fill que no és aquí n'has adormit a la cambra que li volen el meu fill el fill mig es desvelava que volen aquesta gent que truquen de matinada la mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant que ben com promes n'estava
de gent que truquen de matinada, dia sa que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremoló, també en un truc a trenc d'alba que volen aquesta gent que truquen de matinada, encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada que volen aquesta gent que truquen de matinada. Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare que volen aquesta gent que truquen de matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mort, no es mort d'un truc a trenc d'alba que volen aquesta gent que truquen de matinada.
Voilà, c'était... Tu peux nous rappeler le nom de la chanteuse qu'on vient d'entendre, que j'ai pas retenu? Ah, tu sais
non,
pas.
Non, je peux pas.
Tu sais juste qu'elle était dans la manif. Ouais,
c'est okay. Maria del Mar Bonet, non?
Voilà.
Del Mar Bonet.
Maria del Mar Bonet.
Alors, après tout ce topo un peu sur la situation de ces dernières semaines, etc., moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc qui me questionne, c'est que toi, tu fais plutôt partie des luttes anticapitalistes, autonomes, etc., y compris en Catalogne, enfin je veux dire, y compris quand tu vivais là-bas. Ouais. Et tu as l'air plutôt enthousiaste par rapport à ce qui se passe en ce moment ou à la situation. Et j'aimerais bien comprendre, même si tu nous as déjà donné beaucoup d'informations là-dessus, mais qu'est-ce qui peut nous rendre enthousiastes de cette situation voilà, pour nos luttes, etc.
Je suis enthousiaste et je suis inquiet, hein. C'est un mélange. Quoi. Évidemment, quand on en arrive à tel niveau de conflictualité, il y a aussi une inquiétude derrière. Quoi.
Mais t'es inquiet de la répression de Madrid ? Ou t'es aussi, t'es y compris inquiet du processus ?
Il y a trois choses. Je suis inquiet de la réaction institutionnelle de Madrid. Je suis inquiet de la violence de rue, plutôt des nazis, comme il y en a eu, il y a eu plusieurs agressions ces derniers jours. Et évidemment, je suis aussi inquiet d'imaginer que tout ce processus-là, un peu comme il y a eu la transition démocratique qui a été finalement, alors que c'était une énorme phase de lutte, et notamment de lutte anticapitaliste révolutionnaire, a émergé, enfin a donné lieu à une démocratie vraiment tout ce qu'il y a de plus médiocre, quoi, au minimum. Et ben j'ai peur qu'on en arrive aussi à un phénomène comme ça là-bas. C'est sûr qu'il y aura... que ça va être compliqué face à une telle opposition depuis Madrid de constituer un État qui puisse ou en tout cas un territoire qui puisse qui puisse justement ne pas avoir un État qui soit autoritaire lui-même, qui puisse maintenir cette espèce de d'élan émancipateur ensemble, alors que la société risque quand même de se retrouver fortement divisée. Ça, c'est les choses qui me font peur, évidemment, quoi.
Mais vous, vous retrouvez dans des manifestations, c'est ce que tu nous racontais mercredi dernier, où par exemple il y a des milliards de drapeaux catalans, des gens, j'imagine, qui chantent des hymnes, enfin beaucoup de choses qui se rapportent aussi à l'idée de nation, des gens qui applaudissent la police catalane parce qu'elle les a pas frappés le jour du référendum, mais tu nous expliquais l'autre jour que c'est une des polices les plus brutales d'Europe par ailleurs. Et du coup, vous vous retrouvez au milieu de tout ça, ça doit... poser évidemment plein de questions, et etc. Mais qu'est-ce qui vous fait dire il faut être là, quoi, il faut participer à ce truc-là?
Effectivement, on n'est pas sans contradiction, et c'est pas un consensus, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde dans les mouvements sociaux et depuis les perspectives anticapitalistes autonomes qui participent, mais quand même, c'est une grande majorité des gens. Il y a plusieurs axes pour comprendre ça. D'une part, les gens qui sont catalans, en fait, t'as beau être anticapitaliste, c'est ta langue, tu te sens que t'es opprimé par l'État espagnol en tant que peuple. Tu t'inscris spontanément, quoi, vraiment sans ça peut être un truc presque plus émotionnel que rationnel de faire partie de cette communauté catalane, de cette société catalane, et donc de s'inscrire en opposition à ce qui se passe avec Madrid, ou en tout cas avec le traitement que Madrid essaie de faire de la Catalogne. Je pense pour toute une partie des gens, c'est des mélanges entre ça et la perspective de on fait une table rase, on a une possibilité là de repartir sur des nouvelles bases, quoi, qu'il y a une espèce de nouveau pacte social dans lesquels on puisse enclencher un rapport de force qui soit bien plus intéressant pour nous. C'est-à-dire, quand on est face à un État espagnol profondément réactionnaire sur tout un tas de questions de l'ordre de la morale, mais aussi ultra-capitaliste, qui ne fait rien contre la corruption, enfin tout un tas de choses, on peut imaginer que le nouveau pays et ce qui unit les gens à travers cette nouvelle idée d'un pays en Catalogne, ce soit tout l'inverse. Un peu cette espèce de truc que je disais dans mon article, que la bataille, elle est contre l'État espagnol et son monde. Vous voyez, tout ce monde de la corruption, de l'argent facile, des caciques, des espèces de notables qui profitent de leur pouvoir et en abusent de cette police espagnole extrêmement violente. Bon, là, il y aurait peut-être des choses à balayer devant sa porte pour le gouvernement catalan par rapport à sa propre police, effectivement. Mais disons que cette possibilité de créer un nouveau rapport de force qui soit plus intéressante pour nous, elle est notamment liée au fait qu'il y a un énorme mouvement anticapitaliste en Catalogne, quoi. Et ça, c'est pas le cas dans plein d'autres coins, dans plein d'autres régions espagnoles. Et on pourrait que souhaiter que ça arrive dans d'autres coins et que ça soit quelque chose qui s'essaime. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas en Catalogne. Et donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, cette force-là, elle aura une incidence sur ce qui va se passer. Et donc, comme on l'a vu là dans les lois que je citais tout à l'heure, qui étaient des lois particulièrement progressistes, en tirer dans ce sens-là pour que le pacte social soit plus intéressant pour nous. Un peu comme on peut imaginer que le Conseil national de la résistance en France, quand il rejoint De Gaulle, vous voyez cette espèce d'alliance un peu contre nature qu'il y a à l'époque à la libération française entre le Parti communiste et De Gaulle, enfin, et tout un tas de secteurs de la société, s'unissent autour du Conseil national de la résistance et arrivent à constituer des lois qui donnent la création de la Sécu, l'interdiction d'emprisonner des mineurs, enfin tout un tas de choses qui étaient vraiment des choses qui même aujourd'hui sont encore des choses qu'on peut voir comme étant intéressantes. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de similaire si jamais l'indépendance réussit à aboutir, ce qui va être un processus long, hein, on n'en est pas là, quoi.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a les deux mouvements, mais un peu comme dans tous les mouvements de révolte, qu'il y a un processus destituant qui se comprend assez bien, qui est de dire on veut plus que l'État fasciste espagnol ait prise sur nos vies, quoi. Et puis un processus constituant, dont peut-être qu'il y a plusieurs faces aussi à ce processus constituant, celui d'écrire la constitution d'un État catalan, et puis celui qui pourrait plus nous intéresser, qui est celui que tu décrivais aussi tout à l'heure, de dire faire des choses par soi-même, se défaire de l'emprise de l'État, et puis construire des réseaux de solidarité, d'auto-organisation, etc. là-dedans, quoi. Mais ce que tu nous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, parce que moi, la question qui me titille un peu, c'est comment on prend part à la constitution d'un État qui pourrait être... qu'on jugerait plus social, plus avantageux, et ça pose plein de questions. Est-ce qu'on veut vraiment participer à la création d'un État ? Est-ce que c'est vraiment possible un État qui soit plus social, bon, etc. Mais toi, est-ce que tu court-circuitais un peu tout à l'heure cette question en me disant « mais en fait, ça n'aura pas lieu, quoi ». Aussi, ce qui est intéressant, c'est le combat pour un État qui sera peut-être jamais proclamé aussi, quoi. Enfin, pas pour un État, mais je veux dire que ce processus constituant-là, c'est pas demain, quoi, et que ce qui se joue en ce moment, c'est plus... le peuple dénié, quoi, l'État dénié.
À partir du moment où ce processus constituant, il ne peut pas avoir d'effet institutionnel. Ça veut dire que c'est un processus constituant qui n'existe que dans la rue, c'est un processus constituant collectif. Mmh. C'est ce qu'on appelle le pouvoir populaire là-bas, quoi. Le fait que vu que les institutions ne correspondent pas aux attentes, aux besoins, aux désirs de la population, il faut que la population s'auto-organise pour que ce désir se réalise. C'est ce qu'on a vu avec le référendum. Je fais une dernière boucle sur ce référendum. Ce référendum pouvant pas être organisé par l'État catalan puisqu'il était illégal, c'est la population elle-même qui a organisé le référendum. Et ça lui donnait une espèce de force incroyable par rapport au fait que, par rapport à des élections classiques qui en général ne changent rien, celle-ci avait la possibilité, c'est juste un exemple de plus, hein, mais... que c'est cette force-là d'auto-organisation, cette densité qui est en train de naître dans les communautés. Je veux dire, ce qui est impressionnant pour moi, c'est notamment dans les villages, en fait, qui est en train de se jouer. C'est des territoires qui, en général, ont beaucoup de mal à se politiser, ou en tout cas, nous, pendant les 10 années où j'étais fort impliqué dans les mouvements anticapitalistes, on avait peu de liens avec ce qui se passait dans les villages. Et en fait, là, parmi les 300 lieux qui ont été attaqués par la police espagnole, la plupart étaient dans les zones rurales. Et du coup, ça a scandalisé les zones rurales.
300 lieux, tu veux dire lieux de scrutin.
300 bureaux de vote ont été attaqués par la police. Ouais. Et là, dans ces villages-là, ça a bouleversé le vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire que, moi, dans le village, par exemple, où j'ai été, le lendemain des attaques policières, on sentait une espèce de fraternité dans le village entre les gens qui avaient vécu la même violence, qui s'étaient en face, qui avaient retrouvé en face de ça, mais qui aussi s'étaient mis coude à coude et avaient affronté ça avec le plus de dignité possible. Je pense que c'est des choses qui créent des brèches dans la tête par rapport, bon, d'une part, par rapport à eux, aux méchants, enfin, c'est évidemment ce qui soude, mais aussi de sentir la chaleur humaine des gens qui se soutiennent. Le lendemain de l'agression policière, le village d'à côté était venu faire à manger pour leur signifier « Hey, vous n'êtes pas tout seul ». Et il y a eu un énorme banquet sur la place du village, un village de 300 habitants. Il y avait 500 personnes en train de manger ensemble pour parler de ce qui s'était passé, pour « Ouais, comment ça va ta blessure ? Est-ce que tu t'es fait mal ? Est-ce que tu as réussi à dormir ? Est-ce que tu as fait des cauchemars ? Est-ce que, comment... et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer, quoi ?» donc, cette place, il y a un truc qui est assez intéressant, notamment au niveau de la peur. Les gens ont hyper peur. Moi, j'avais jamais vu ça avant dans ma vie, de sentir une population aussi terrorisée par l'État, quoi. Les gens sont terrorisés, hein, par la Guardia Civile. C'est vraiment parce qu'il y a des traumatismes collectifs qui viennent de l'histoire. On a déjà parlé longtemps. Mais en fait, ils ont peur. Et ils ont décidé d'en parler, d'essayer de la vivre ensemble, cette peur, et de réussir à en faire émerger quelque chose d'intéressant. Ça, en soi, politiquement, ce que ça constitue, c'est hyper beau, quoi. C'est justement, on est loin des vieux modèles d'arrogance, de où il n'y a que la force qui est mise en avant. Là, il y a aussi toute une part, et ça c'est aussi en grande partie dû au réseau anticapitaliste féministe de ces dernières années, de laisser de la place pour sortir les émotions et que ça fasse partie, que ça soit en soi un terrain politique d'action, quoi. Moi, je proposerais bien qu'on mette la dernière chanson, qui justement est une chanson qui parle de ça, de la peur et de comment le régime et le statu quo, l'État, essayent de s'imposer à travers la peur, et comment il y a des possibilités de s'en sortir. Donc, c'est une chanson moitié en catalan, moitié en anglais, qui est d'un groupe, un peu le groupe le plus connu en catalan qu'il y a, Adversaris, qui est un groupe vraiment de camarades, de squatteurs, et avec une chanteuse américaine.
C'est bon. Pardon.
On va se quitter là-dessus.
Ouais, c'est la musique hip-hop, c'est ça.
Ouais.
Ok, très bien.
Ok, bah, avec Armand Réunion, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur tvnr.noblogs.org. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est pas fini. ça fait
non,
que commencer.
Que, ouais, on pourra presque se donner rendez-vous tous les ans, parce que c'est possible que ça dure 10 ans et peut-être plus. Et aussi, c'est peut-être ce qui est finalement le plus intéressant. Proclamer l'indépendance, ça a donné l'occasion à beaucoup de gens de boire un peu de champagne. Le plus intéressant, c'est peut-être le processus de ce qui se joue entre les gens, enfin, ce qu'on disait sur la fin, là, comment on se constitue comme une communauté en lutte, quoi.
Et est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui veulent en savoir plus, et surtout sur des regards un peu critiques? Moi, je sais qu'il y a quelques articles sur Lundi Matin, lundi.am, et aussi un sur Jeff Clack, le site de Jeff Clack. Voilà, c'est les seules choses.
Ouais, moi, j'ai rien lu sur CQFD, etc. Enfin, ou alors, pas des trucs...
Bon, voilà.
À
en
bientôt.
Tout cas, merci.
Ouais, merci, Martin.
Et à la semaine prochaine.
À plus.
Junts, colze a colze, apreta els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control that you're building utopia. No fear! When you're courageous, the feelings contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Capo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is our building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu que sent el hype, assaltem els mics com Bonnie Clyde de la mà. Ara tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, prou, demanem sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit, idiota. Soc prop del precipici, intentant no perdre el cap. Contra Master Flash i Furious Five com al principi. Malson.
Parla amb flames, columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra estela i la vanguardia plora els seus difunts. Carregada tots junts, colze a colze, apreta els punys.
Capo!
Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny.
No fear!
No fear!
When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait.
Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, caca, no té capo. Capo, l'actitud de capo.
No fear. Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got
no fear.
World is ours, building power, say it louder.
La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi, li dili amb el foli i el boli, ganeix a la infància. El pànic a la repressió que cada cada militar et va minar perquè és quinta essència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por. A la mala imatge t'esquitxa el rumor, mostra el pit del cor i fer el cor fort. Riure't el mort i el que el vetlla. Viu amb vides de fer i tu el podi i ell s'amorralla i no fa. Quan calla, el pobre, el ric no trontolla. Ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que el que et pot tombar no és tenir por, sinó mostrar-ne el poli. Jo me la guardo per mi, que la cel·la és petita, però el somni és immens. Tombar el capital per fi, tenim fotos dels datos, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però hi ha una germana de mil cares, de nom sub a terra, que em guarda l'esquena. A cada burgeset, la poca batxarot, que la solidaritat és cert de tot. I viure amb poc, ric, sense el tic-tac. La tropa de xusma que et posa en escac, ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet bevejant, de veure un banquet entre el poble i la paret, com a rec volant, pam.
Capo!
Carregada tots junts, colze a colze, fet els punys.
Capo!
Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny.
No fear!
Never go for it, ever control it, you're building utopia.
No fear!
When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait.
Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té
capo.
Capo, l'actitud de capo.
No fear!
Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got
no fear.
World is ours, building power, say it louder.
No fear! Whether you board a flight, although you scared of heights, or a kid getting bullied when you go to school, and you train up and you go prepare to fight, you got no fear. Not a bully chills to a lower Fahrenheit. And it freezes. It's hard to be a fan and a peas. And a plane lands in a place with a warm breeze.
No fear. That's what I tell them. Only way to deal with a unfree world. So be so free. Your resistance is rebellion. And I'm so clear.
They fear debilitates. And they conceal your fate. When they manipulate. But mind makers are irregular. Changing the molecular. Fearing and protecting you. No fear. Immigrants internationally. No papers. So they try to deport you. But fuck their borders. Who's gonna still raise a family? You got no fear. Cause you're queer of a trans. And they hate you with judgment. Be who you are. And love who you love. But still hold hands and date you in public. We got no fear, don't foreclose in evictions. If you can't pay the loan, gotta reclaim your home. You chose to be brave, not frozen as victims. We got no fear. It's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past it. Battle trans shit.